Comment on appelle un tigre qui se noie?
Oh putain. Un félin sous-marin, non, je sais pas.
Le tigre Grégory.
Quoi? Le tigre Grégory, putain. Oh la vache.
Joseph, machin.
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer?
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Camille.
Oui, ça commence par moi.
T'as vu, parce que je me suis souvenu qu'il y a deux semaines, on avait commencé par Richard.
Quelle mémoire de dingue.
Comment allez-vous, très cher?
Mais je me porte comme un charme, et vous?
Fort bien. Je me porte.
Vous avez une mine excellente, mon cher Elias.
Je vous remercie. Pour l'instant,
c'est-à-dire que
le canapé qui me porte.
D'habitude, vous avez déjà une très bonne mine. Là, vous avez une très très bonne mine.
Oui, pas du tout des cernes. Non, pas le genre de la maison, pas du tout.
On ne sait pas du tout parler de capital génétique.
C'est mignon, un panda.
Merci beaucoup. Et en parlant de maison et de panda, rien à voir. Hicham.
Yahala. Ya marhaba.
Yahala, ça veut dire quoi?
Salut.
Ah d'accord. Yo, c'est le yo arabisant. Comment allez-vous, très cher?
Ça va très bien, et toi?
Ça va. Bon, je note que Camille m'a avoué, tu me tutoies, mais bon. Très bien. Je maintenant.
Mais c'est ce qui te différencie des autres patrons. Tu es
accessible.
Ouais, accessible.
Maintenant que t'es devenu pote avec ma mère, je vois que voilà, ça se permet de me tutoyer, mais. Très bien. Mais écoute, ça va très bien. Je suis très content de vous retrouver. Ça faisait extrêmement longtemps.
Oui, c'est vrai.
Deux semaines, le temps passe. Le temps passe.
Alors, je ne dis pas.
Mais oui. Mais voilà, ça fait très plaisir et très très chaud pour partir sur une séance de vulgarisation.
Non, on va vulgariser à foison là.
Est-ce que vous êtes chaud?
J'aime beaucoup cette façon de crier très parisienne. On est chaud, mais on ne crie pas fort. Oui, on est chaud. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, je vais commencer.
Oh.
Oui.
Si vous me le permettez, bien évidemment.
Bien sûr.
Si vous ne le faites pas, je pense qu'on va quand même faire comme ça. Mais non, si vous le permettez, donc je vais commencer et je vais vous parler des 9 mondes ou des 9 royaumes d'Yggdrasil. Voilà.
On va voyager loin, quoi.
C'est...
Plutôt. Oui. Disons que ça ne se fait pas à d'autres canassons, quoi.
J'ai l'impression.
Après, ça sera Camille.
Oui.
Oui.
Et on va se demander pourquoi.
Ah, un petit pourquoi. Avec une réponse, j'imagine.
Ah bah je l'espère bien, on est pour ça. Hein.
Ouais, j'ai très hâte, j'ai fortement hâte. Et après, ce sera Ishuju qui va nous faire...
Qui va continuer son sujet qu'il n'a pas fini la dernière fois.
Continuer et finir, donc.
Et finir.
Ah, mon Dieu,
tout se passe bien.
On s'était arrêté sur un suspense.
Ouais, bah j'avais Al-Jazeera, mais c'est plutôt la chaîne d'information,
c'est
ça.
C'est pas loin, ouais.
Ouais, je comprends. Non, mais j'apprends. Je vous propose de commencer.
C'est parti.
Là, regardez, Thor nous a envoyé un signe.
Vous aimez la littérature scandinave, Madame Mouchbou?
Vive esprit de tout ce qui n'est pas un.
La mythologie raconte qu'à cause de ses méfaits, Odin le bannit du Valhalla pour l'éternité.
Alors j'aimais beaucoup cette musique, tout libre de droit bien évidemment, parce que déjà elle s'appelait Vikings.
Ah. Okay.
J'aimais beaucoup. Et en vrai, je trouve que le flex à la fin est plutôt chouette. Petit mot de trip-hop et tout, ça envoie et tout, donc plutôt chouette. Donc, comme on en parlait juste avant l'enregistrement, cet épisode, je me suis mis à lancer les films du MCU, donc Marvel Continuous Universe, dans l'ordre chronologique, quand soudain, j'entendis « Asgardien, rendons-nous à Midgard pour acheter des gaufres. Allez Michel, ouvre le Bifrost !»
Voilà. C'est une vraie phrase que...
Non.
Ah, okay.
Il n'est pas question de gaufres dans les Marvel.
Gaufres, et puis il est pas... des gaufres, pourquoi pas, vraiment, ça c'est plausible. Mais par contre, Michel, non. Genre, oui, vas-y, Michel, ouvre le Bifrost.
Voilà,
ah.
C'est vrai.
Mais par contre, Asgard, Midgard, Bifrost, bon, je...
On dirait du Sims.
Mais donc voilà, bon, Asgard et Midgard sont des lieux. Si vous avez regardé ces films-là, vous comprenez que c'était des lieux, mais c'est où? Donc bon, la géographie, comme vous avez pu le suivre au gré Des saisons de Pardon Maman, c'est pas forcément mon truc, mais la géographie mythologique, c'est déjà plus rigolo, en tout cas pour moi. Donc j'adorerais à l'occasion faire un sujet, le MCU, donc Marvel Continuous Universe, je le dis une dernière fois, mais après je dirais MCU. Donc le MCU versus les mythes dont il s'est inspiré, ou le mythe de la création du monde et les personnages de la mythologie scandinave, j'adorerais faire ça, mais ça sera plutôt, enfin ce seront plutôt de gros dossiers, donc on va commencer plus petit, et comme annoncé dans cette intro, je vais vous parler de Yggdrasil et des 9 mondes d'Yggdrasil. Déjà, Yggdrasil, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça vous parle ?
Absolument pas. En plus, j'ai jamais vu de Marvel de ma vie. Donc,
sérieux ? Ok, bah, c'est rigolo.
Tellement pas.
Bah ouais, il y en a des biens et des pas bien. Je suis en train de me les taper en ce moment. Il y a à boire et à manger. Quoi.
Ouais, il y a des belles bousasses, mais il y a des trucs rigolos aussi.
Mais justement, j'ai vu Thor il y a moins d'une semaine, à l'occasion d'un rhume où il fallait du coup occuper ma soirée enrhumée.
Ah, et alors ?
Je te l'ai dit par message, c'est-à-dire que le personnage de Loki sauve quoi, mais tu sais c'est très manichéen quoi, c'est très
mais bien sûr
un côté cuculapraline praline qui est un petit peu voilà.
Bah, surtout que ça commence avec Captain America etc, donc c'est il y a le côté manichéen de la vie est noire ou blanche, il y a les méchants les gentils, mais ça change beaucoup par la suite.
Bah, et Loki, tu sens qu'il va pas être non plus totalement inscrit dans un côté justement gentil ou méchant, enfin si c'est un beau connard, mais
t'as ça, et après bon sauvable, le sujet n'est pas les films Marvel, mais t'as un côté très même les gentils, avec notamment un que j'ai vu récemment, c'était Captain America la guerre civile, Civil War, un truc comme ça, où justement t'as la question de est-ce que les héros peuvent se rebeller, doivent se rebeller, etc. Donc non, c'est des questions qui sont abordées par la suite de manière assez intéressante. Mais donc Yggdrasil,
Mais juste du coup, pour finir, les seuls trucs qui m'ont intéressé dans le film, c'est justement les parties qui se passent dans le...
Oui, mythologique.
Exactement.
C'est, et donc, voilà. Cet endroit, c'est quoi ? C'est,
la capitale de...
Ouais,
là où vit Odin, mais j'ai plus le nom.
C'est Asgard.
C'est Asgard, voilà. Et il se met bien là-bas.
C'est
joli.
C'est bien résumé. Donc Yggdrasil, par contre, je crois qu'on n'en parle pas trop dans le film, ça te dit quelque chose ou pas ?
Non, du tout.
Ok. Alors, Yggdrasil, en fait, c'est une entité majeure, enfin assez majeure et plutôt centrale de la mythologie scandinave. Donc, ça correspond à la notion d'arbre-monde qu'on retrouve dans d'autres conceptions.
Arbre-monde ?
Ouais.
C'est-à-dire ?
C'est l'arbre d'où naquit la vie, en gros, l'arbre central qui va permettre de créer toute cette forme de vie. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, etc. Donc, on retrouve dans d'autres croyances. Et son nom peut se décomposer en deux parties, donc Ygg plus Drasil. Donc Drasil, non pas le mec de Hartley Cœur à Vif.
Ni le pays.
Le Drasil, bien sûr. Tout à fait, avec les plages de sable fin du Drasil. Donc Ygg, en fait, c'est un des noms du dieu Odin. Et qui est considéré comme le chef, le roi d'Asgard, dont on parlera plus tard. Et donc Yggdrasil, si Ygg veut dire Odin, enfin peut dénominer Odin, donc Yggdrasil pourrait être traduit par destrier d'Odin. Au passage, pas facile de galoper à dos d'arbre, bon, sauf si on s'appelle Groot, mais ça c'est une autre question qu'on pourra aborder avec les autres films de Marvel, mais ce n'est pas la question. Donc dans la mythologie, Yggdrasil est généralement décrit comme un arbre qui s'appelle If.
Et pas le nez en arabe.
Ouais. Ou un frêne, donc un truc plutôt imposant et qui a la classe. Mais c'est un arbre qui est un arbre Yggdrasil, donc c'est un arbre qui n'est pas comme les autres, puisqu'il abrite 9 royaumes. Donc pour ce sujet, on va se focaliser sur les royaumes, mais on reviendra sur Yggdrasil pour d'autres sujets, parce qu'il s'y passe pas mal de choses. Vraiment, il y a à boire et à bouffer dans cet arbre. C'est un sacré bazar.
Donc juste attends, pour être sûr que j'ai bien suivi, il y a un type qui chevauchait un arbre sur lequel il y avait 9 royaumes.
Ah, c'est pas qu'il chevauchait un arbre, c'est que l'arbre, le nom de l'arbre peut être traduit par le destrier ou la monture d'Odin.
D'accord.
Mais c'est une image.
Donc c'est un arbre avec un pelage soyeux ?
Non, c'est un arbre vraiment arbre. Alors, si on regarde la description d'Yggdrasil, et j'y reviendrai dans un autre sujet, mais les racines, les choses, il se passe des choses différentes, soit au niveau des racines, soit
au
endroit.
Niveau des branches. Voilà. Ouais.
Et même, donc, on disait, Yggdrasil contient 9 royaumes. Les royaumes se trouvent à un endroit différent d'Yggdrasil, que je n'ai pas décrit, parce que sinon il faudrait faire un dessin, ça va être le bazar. Donc, les 9 royaumes d'Yggdrasil. Commençons par Midgard. Donc, du coup, je ne peux pas trop me tourner vers Hicham qui n'a pas vu les films. Mais Midgard, est-ce que ça te rappelle quelque chose, Camille ?
Non, et pourtant, je l'ai vu il y a moins d'une semaine.
Aïe. Midgard, alors il y a pas mal de choses.
C'est un peu au milieu.
Oui, j'allais dire, vous allez pouvoir deviner des choses, très bien. Merci, Hicham. Donc, dans certains textes, en fait, il est également appelé Mannheim, qu'on pourrait traduire par Royaume des Hommes. Midgard, c'est le royaume où il y a les humains qu'on voit dans le film.
Donc
le
Portman vit
dans Midgard, exactement. Et les gens qui y a autour. Merci.
Oui, du coup, nous aussi, par exemple.
Voilà, exactement. Merci d'ignorer tout le reste de la population. Voilà, très masculin comme point de vue, Camille, bravo. Donc c'est le monde du milieu, donc Midgard, et le monde sur lequel se trouve la Terre et tout ce que l'on connaît. Donc d'un point de vue mytho-géographique, ce terme n'existe
mytho
pas.
Mytho comme mythologie, pas comme mensonge.
Ouais, non, j'ai inventé ce terme, mais effectivement, tu l'as bien deviné. Donc, le Midgard, ça ne définit pas que la Terre, mais tout le monde qui l'entoure, avec système solaire, etc. Donc Midgard, de manière
l'univers
générale...
L'univers qu'on connaît, en gros. Nous, oui, notre univers connu, exactement. Thomas Pesquet inclus. Quoi.
Et, oui, tout à fait, exactement. Okay. Donc Midgard est considéré comme le monde du milieu, car c'est le seul qui n'a pas d'alter ego. Donc on a dit qu'il y avait 9 royaumes, donc il y a un royaume du milieu, et après 4 paires de royaumes. Ce qui fait 4 fois 2 plus 1, 9. Très bien, merci, un point pour Ichouchou. Tous les autres fonctionnent donc en duo d'opposition.
Okay.
Premier duo d'opposition, Asgard et Helheim. Asgard, Camille.
C'est la capitale, c'est là où vit Odin.
Oui, voilà, c'est là où vit. C'est pas la capitale, mais c'est là où vit.
C'est là que le chef y vit. Moi, j'en déduis que c'est la capitale un peu. Quand même.
Pas exactement, tu vas voir. Non, parce que en fait, les humains, ils sont en Midgard, mais qui vit dans Asgard? Alors Asgard, petit indice, ça peut être aussi indiqué dans les textes, comme Asaheim.
C'est vers l'Alsace.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est en Alsace. Ouais, hein.
Alors, ouais.
C'est dans la banlieue de Strasbourg, ça.
Alors, c'est vrai que tous les noms en Heim font très très alsacien, c'est vrai.
Alors, si mais c'est pas là-bas que Odin hiberne ?
Pas hiberne, mais...
Il n'y a pas des histoires que c'est un dieu qui hiberne ?
Non, mais
Asaheim... Il ne fait pas des sommeils pour se ressourcer.
Alors, si vous connaissez un petit peu la mythologie scandinave, le Asaheim, ça peut vous faire penser à quelque chose. Sachant que Heim, ça veut dire royaume, globalement. Asaheim.
Le royaume d'Asa ?
Le royaume des As.
Ah.
Pas la chanteuse,
là-bas.
Pas la chanteuse, bien sûr. Double blague avec ça, parce que les As donc, sont un groupe de divinités dans la mythologie scandinave, et plus particulièrement le panthéon lié à la famille de Odin. Donc c'est là que se trouve la demeure d'Odin, Thor et toute leur clique dans le film Marvel, donc on voit Asgard, un endroit très chouette. Et donc les As sont des divinités, mais ne sont pas immortelles, contrairement à d'autres panthéons. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs de ouf, mais ils peuvent mourir. Ce qui en fait... En fait, d'assez chouettes personnages à utiliser dans la fiction et la fantasy, parce qu'en fait, ça crée un côté épique. Ils peuvent, ils ont des pouvoirs de fou, donc ils peuvent accomplir des choses folles, mais il y a un risque. Donc, mine de rien,
dire, il y a du suspense que t'as pas avec Zeus, quoi, par exemple.
Exactement, parce que Zeus,
tu t'inquiètes pas pour sa peau.
Ouais, voilà, globalement. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Fait rigolo, As, c'est un nom masculin, donc on dit un As. Donc Thor est un As. Odin est un As. Voilà, donc je trouvais ça assez rigolo, mais j'avais pas capté à la base que Zaz c'était assez rigolo des As. Donc voilà, c'est.
Moi j'imagine vraiment la chanteuse, 15 petites chanteuses
avec une armure et. Ouais, j'ai plutôt la chanteuse Zaz avec une armure et une lance.
Yeah. Je trouve ça rigolo.
Donc ça c'était Asgard, et on a dit qu'il y avait son alter ego qui était Helheim, le royaume des morts. Donc si vous vous souvenez d'un de mes précédents sujets sur les enfers, donc saison 2, si je dis pas de bêtises, j'y parlais de la conception d'un enfer scandinave, donc un endroit froid où vont les personnes qui sont mortes de manière peu valeureuse, donc vieillesse, maladie, couardise, etc.
Vieillesse, moi j'adore comment t'es catalogué. Quoi.
Mais ouais, parce que c'est pas une mort qui est courageuse en fait, tu n'as pas affronté...
Tu as attendu la mort. Quoi.
Exactement.
Bah désolé, mais si t'as été un super guerrier, que t'as buté tout le monde et que t'es mort au chaud dans ton lit, t'y peux rien quoi.
Bah t'y peux rien, mais en fait c'est un honneur de mourir sur le champ de bataille. Donc si t'es mort de...
Tu vas finir fiché est. Hein.
Non mais si t'es mort de vieillesse, ça veut dire qu'au lieu d'aller sur le champ de bataille, et bah tu es resté dans ton lit. Donc si t'es mort dans le campement entre deux batailles, ça passe.
Ouais.
Si t'es mort dans ton château, bah c'est chaud, c'est pas ouf.
84 ans, le repos du guerrier, quand même.
Eh ben non, justement le repos du guerrier c'est où? C'est au Valhalla. C'est à Asgard.
Donc, j'oublie tout le temps le Valhalla.
Asgard, c'est où vont les guerriers valeureux. Et Helheim, c'est où vont les guerriers. Les pas guerriers,
ouais,
en fait.
Les, ceux les qui ont fait de la merde.
Voilà. Et est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Helheim?
Helheim?
Ouais,
pour moi, c'est un mélange d'arabe et d'alsacien.
Exactement.
Clairement.
Exactement. J'ai pas osé le dire, je me suis dit, on va arrêter.
Pourquoi arabe et alsacien?
Helheim.
Helheim, exactement.
Ah d'accord. Alors non, mais non, parce que c'est Helheim avec un H E L H E I M.
Comment en arabe?
C'est Helheim. D'accord. Non, ça vous fait penser à quelque chose?
Hell, hell, l'enfer.
Oui, tout à fait. En fait, c'est donc de là que vient le mot hell, qui signifie enfer en anglais.
D'accord.
Et oui, donc ça vient de la mythologie scandinave.
Ok.
Passons au prochain duo de royaume. Donc ça va vraiment être que des bleds alsaciens, je vous le dis tout de suite.
D'accord. Okay. On va arrêter les bleds. Ouais.
On a compris. Message bon. Est passé.
Muspelheim. C'est le royaume du feu, opposé à Niflheim, qui n'est pas du tout le royaume des tétons, ça n'a rien à voir.
C'est le royaume de la glace, et c'est là-bas qu'il y a les méchants géants de glace, où je me suis dit, ah dis donc, ça ressemble quand même vachement à...
Ah, pas exactement.
Non, c'est pas là-bas qu'il y a justement ceux que tu vois dans le film Thor.
Potentiellement.
T'as des géants de glace dans le premier film.
Alors t'as des géants...
Et physiquement, ils ressemblaient énormément aux marcheurs blancs de, oui, de Game
oui,
of Thrones.
Oui, de ouf.
Et je me suis dit... Waouh,
de okay. ouf. Et en fait, voilà, il y a plusieurs. En fait, ce qui m'a fait tiquer, c'est que dans ces films-là, c'est qu'ils parlaient de plusieurs royaumes comme si c'était quelque chose d'acquis. Et je me dis, mais en fait, ces royaumes doivent exister quelque part. Effectivement, ouais. Ils sont tirés de mythologie. Mais c'est pour ça que je voulais faire potentiellement un sujet le MCU versus la réalité de ces mythes. Parce qu'ils ont pris quelques libertés avec, que je comprends parce que c'est de la fiction. Mais donc, alors, Muspelheim, donc c'est Royaume du Feu. C'est un royaume dirigé par un géant nommé Surt, j'en sais rien. Et en fait, c'est assez intéressant de faire le parallèle avec d'autres panthéons. Donc, comme pour le panthéon grec, par exemple, les premiers adversaires des dieux panthéoniques sont souvent des géants ou des titans.
Ouais, c'est vrai.
Donc, on en parle dans le film Thor, notamment, où Odin a mené la guerre contre les géants et les a fait une trêve, on va dire, avec eux. Mais c'est-à-dire qu'un des premiers ennemis des As, c'était... Putain, je peux plus penser à autre chose que la chanteuse maintenant. des As, c'était des géants. Donc Muspelheim, on en reparlera après, géant de feu.
Okay.
Maintenant, Niflheim, donc encore une fois, rien à voir avec les tétons, mais un des royaumes dont l'origine est la plus confuse. Certains textes vont le décrire comme un des royaumes présents avant l'origine du monde. Il faut savoir que je ne suis pas croyant, c'est une notion assez compliquée pour moi. Quelque chose qui était là avant le monde, pas facile. Mais bon, admettons, donc Niflheim présent potentiellement avant l'origine du monde, et en fait dont le froid intense mêlé à la chaleur de Muspelheim, chaleur intense, a donné naissance au monde, donc comme une sorte de Big Bang, de Big Bang originel, on va dire. Et par la suite, Niflheim, ça a également été désigné comme un royaume extrêmement sombre, donc sombre et froid, sur lequel règne Hel, H-E-L, qui est une des filles d'Odin et déesse de la mort. Et Helheim serait alors en fait, donc Helheim, dont on a parlé juste avant, serait en fait, avec cette conception, l'antichambre de Niflheim.
D'accord.
Donc les lâches et les couvoirs et les malades et tout vont à Helheim. Ouais, c'est ça, vont à Helheim. Et ensuite, ils vont arriver à Niflheim, où la déesse est la déesse de la mort et la fille de Odin, et une personne pas très gentille que tu verras dans d'autres films du MCU.
Très bien.
Ensuite, nous sommes à Vanaheim et Jotunheim. Peut-être entendu parler dans... Et, ah oui, voilà, dans le premier, je pense que c'est Jotunheim dont il parle.
D'accord.
Mais commençons par Vanaheim. Vanaheim, on a dit que Asgard, ça pouvait se traduire comme Asaheim. Vanaheim, vous m'avez dit que vous n'étiez pas trop trop fort en...
Comme Vasgard, du coup.
En scandinave.
Ouais, un truc scandinave. Non, en fait, c'est des noms que vous n'avez pas attention entendu, mais c'est encore un nom rigolo en français, mais pas forcément dans d'autres langues. Mais Vanaheim, c'est le royaume des...
Des vannes.
Oui. Et ouais, c'est pas une blague.
Ah, c'est vraiment des voitures.
Non, non, des vannes.
Ah, des blagues.
En fait, c'est le royaume des vannes. Non, en fait, les vannes, c'est comme les as, c'est un type de divinité dans la mythologie scandinave.
Ah, putain, moi, je suis en train de me dire, attends, vannes, est-ce que c'est le royaume des...
Non, non,
des
c'est... Trios, des... Non, non, c'est vraiment...
La robinetterie. Il y a Mario.
Non, c'est vraiment le royaume des vannes, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très dur à faire en français, parce qu'entre les liaisons et les mots qui veulent dire d'autres choses, c'est assez compliqué. Mais en fait, il y a trois groupes majeurs dans les divinités scandinaves. Il y a les As, je vais plus faire les liaisons maintenant, il y a les As, les vannes et les Dis.
D'accord.
Et si j'ai bien compris, il se pourrait que, je suis vraiment pas sûr que j'ai bien compris, mais que les Valkyries soient des Dis qui sont au service des As.
Ah oui, ok, d'accord.
Voilà. Mais bon, okay. Dites-vous que c'est un type de divinité. Donc les vannes sont plutôt associées à la création, mais ça les a quand même pas empêchés d'entrer en guerre avec les As pendant un petit moment.
Ok.
Donc,
pourquoi se priver ?
Voilà. Et c'est daté à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, je crois. Je dis pas bêtises. Par contre, je sais pas si c'était avant les géants ou après. Donc, je veux pas dire de bêtises. J'ai pas suivi toute la chronologie. En fait, voilà, j'ai pas fait la chronologie de la création du monde, etc. Mais bon, les As et les Vannes ont été en guerre pendant un moment, ce qui est fini. Donc maintenant, les As sont souvent considérés comme un groupe majeur par rapport aux Vannes. Donc okay. Les As, c'est avec Odin et c'est les grands patrons. Et les Vannes, ça reste des divinités, mais parfois on les considère comme un sous-groupe des As, mais ça reste comme un type de divinité. Maintenant, face à Vanaheim, on avait Jotunheim. Jotunheim, qui est justement ce dont tu parlais, Camille.
Okay.
Donc, si je dis pas de bêtises, le royaume qui est cité dans le premier film Thor, royaume des Jotunheim.
Des marteaux.
Non, des Jotunheim.
Jotunheim. Des rappeurs qui vont vers...
Jotunheim, là j'aide beaucoup.
Jotun.
Voilà, oui.
Ah, mais, que, mais c'est quoi un Jotun
trouve... Oui, moi j'essaie de trouver
c'est quoi. Mais qu'est-ce que c'est un Jotun?
J'ai entendu Jultun.
Jotun, un mystère géant, enfin, j'en sais rien moi.
C'était ça la blague. Ah. C'était pour rigoler. Oh là là. Donc voilà, royaume...
Quelle esconce.
Merci. Donc royaume des Jotun, sachant que Jotun désigne les géants. Donc Jotunheim signifie le royaume des géants. Donc les géants étaient les ennemis originels des As et les Vannes étant maintenant copains avec les As, donc c'est assez logique. Donc comme je disais, ils fonctionnent en les royaumes qui sont sur Yggdrasil fonctionnent en duo. Donc on a Vanaheim qui sont les divinités de la création et en face on a Jotunheim avec les géants qui sont plus associés à la destruction. Donc on a une petite opposition. Et enfin le petit dernier, enfin les petits derniers. Vraiment les plus simples, ils se sont pas foulés. Alfheim et je sais exactement ce que veut dire Hicham. Je viens de le réaliser maintenant en essayant de le prononcer, mais Alfheim et Svartalfheim.
Pourquoi? Ah non.
Je sais pas, quand je l'ai lu, je trouvais que ça
faisait... Svartalheim.
Ça faisait très Starfulheim, je sais pas, Starfulheim.
Tu vas trop loin, je pense.
Pardon. Ouais. Non, mais le pire, c'est que quand je l'ai écrit, ça m'est pas venu à l'esprit, et maintenant... Donc Alfheim, littéral... Or, Alf...
1000.
Non. J'ai mis du temps à capter. Non, Alf, non, moi, le premier truc auquel j'avais pensé, c'était pas de l'arabe, c'était le petit extraterrestre qui mangeait des chats.
Ah oui.
Salut, c'est
oui.
Alf.
Okay, oui. C'est pas du tout. Non, ça peut vous faire penser à un truc que vous connaissez forcément. Là, Alf.
Le demi-royaume.
Un lutin.
Le royaume du milieu.
Pas loin. T'as un truc, Hicham? Oui, elf, exactement. Bah, donc, littéralement, au royaume des elfes qu'on traduit souvent en français par elf.
Ok.
Et Svartalfheim, en fait, les Alfheim, ça va être les elfes lumineux, et Svartalfheim, c'est tout simplement le royaume des elfes sombres. Donc, Alfheim et Svartalfheim, c'est l'opposition en fait, du monde de la lumière et du monde de l'ombre.
D'accord.
Donc là, encore une fois, ce que je disais, on n'a pas vu le mythe originel des différents royaumes et de l'univers scandinave, mais on a donc une opposition entre lumière et ombre, on a une opposition entre feu et glace, une opposition entre entre création et destruction, et enfin on a le royaume des As et le royaume de la mort et le royaume des humains où Midgard où on a tous nos petits humains. Maintenant vous dites comment je peux aller d'un monde à l'autre.
Tu prends la 7, tu fais un changement à...
pas loin.
Non,
pas loin.
Tu prends leur porte magique là. Enfin, ils ont un pont avec une porte et un gardien.
Ouais, qui s'appelle.
Qui s'appelle, tu l'as dit tout à l'heure.
Oui,
le brise-glace là.
Pas loin. Bah, le Bifrost.
Le Bifrost, voilà, le soie gelé.
Et oui. Et moi, je l'ai pas écrit comme ça, du coup, c'est Bifrost avec un O bizarre, je crois. Mais voilà, je me demandais si on pouvait être hétérofrost ou homofrost ou si on pouvait vraiment être Bifrost, mais. Bon, je me suis dit que c'était pas la peine de la garder, celle-là.
Ouais, c'est trop tard.
Voilà. Mais donc, Bifrost, de son joli nom, Chemin Scintillant. Donc, comme tu le disais, c'est un magnifique pont. Et il est initialement censé faire office de pont entre Asgard et Midgard. Donc, okay. les guerriers valeureux. Donc, il faut se rappeler que c'est une mythologie qui est scandinave. Donc, les guerriers valeureux qui sont à Midgard, donc le royaume des humains, vont s'élever vers Asgard via ce magnifique pont qu'est le Bifrost. Et on considère également en fait, que ça va pas seulement être un pont entre Midgard et Asgard, mais également un point d'accès vers Asgard via d'autres royaumes. Et il serait dit, et là ça va être ma conclusion, mais que je trouve la plus improbable, mais il serait dit que donc le Bifrost, donc ce magnifique pont qui va mener à Asgard, il brûle d'un feu ardent pour empêcher les géants de Muspelheim de marcher sur Asgard. Si, je sais pas si vous vous souvenez, mais Miss
Pulpine, ouais, c'est quoi déjà?
Ben en fait, c'est les géants de feu. Ah. Donc je comprends pas de faire cramer du feu sur le pont pour pas que les géants de feu passent. Donc celle-là, je l'ai pas compris. Je me suis dit que les géants étaient un peu douillets, mais bon, pourquoi pas. On reparlera du Ragnarok un autre moment, mais ça sera pour une autre fois.
Bah merci beaucoup. Une chouette découverte pour moi parce que je n'y connaissais rien.
Ah bah moi encore pire.
pas trop compliqué de s'y retrouver avec les Heim, les Az, les Naz.
Tu me fais une interro surprise, je me rappellerai de rien à part Zaz.
C'est déjà pas mal.
Ouais. Mais c'était intéressant, ouais. Enfin, j'arrive toujours pas à comprendre l'histoire de 9 royaumes sur un arbre là. Mais
Bah en fait, est-ce que tu connais un peu la mythologie hindoue?
Pourquoi est-ce que je...
Ben, en fait, c'est des conceptions du monde qui sont très différentes où ils considèrent que... Enfin, il y a certaines croyances où on dit que la Terre repose sur une tortue. Je crois que c'est le dos d'une tortue qui repose sur 4 éléphants. Qui repose sur... Donc, c'est une conception du monde qui est simplement différente. Et c'est genre pour eux l'organisation de l'univers. Voilà, de l'univers. Et c'est pour ça que ça, c'est aussi rigolo parce que c'est juste... La Terre existe, mais les royaumes sont dans un arbre. Pourquoi pas? Et comme je disais, je vous referai un sujet parce que dans l'arbre, c'est le bordel. Il y a plusieurs animaux, il y a c'est le zbeul, et il y a des trucs assez mesquins en plus dans les arbres, je trouve ça rigolo. Ouais. Et si vous voulez en apprendre un peu plus là-dessus, en tout cas, découvrir un petit peu, vous initier un petit peu. Les films Marvel, c'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est une façon d'entendre les noms en tout cas.
Oui, voilà, mais c'est pas... disons que voilà, moi, si je voulais me renseigner sur cette mythologie-là, c'est clairement pas vers Thor que je me tournerais.
Ah oui, clairement. Mais bon, en tout cas, voilà, ça fait...
Vers Thor, parce que j'ai entendu vers toi. Je fais, oh putain, mais c'est hardcore. Non. C'est clairement pas vers toi, Ilias, que je veux.
Pas sympa. Non,
je trouvais que c'est vraiment de l'amateurisme, ton sujet.
Et sinon, il y a le jeu God of War. Le dernier qui est d'inspiration scandinave. Et donc, justement, on retrouve également le Bifrost, on retrouve d'autres divinités et des entités que je n'ai pas citées, mais qu'on retrouve dans ce jeu qui est très très chouette. Donc voilà, je vous le recommande.
Très bien.
Merci.
Et ça
pourquoi
va être. Ben voilà, ça va être l'occasion de passer au pourquoi de Camille.
Oui, allez.
Mais pourquoi tu fais ça, Jack?
Ben alors, pourquoi, bon Dieu?
Pourquoi quoi?
Ben pourquoi t'as fait ça, quoi?
Pourquoi tu dis ça?
Pourquoi?
Pourquoi faire?
Pourquoi? Donc tu ne m'en plus?
Mais je sais très bien pourquoi!
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que y a bam 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 et tagadagadagadag.
Ce jingle ne se démodera jamais.
Non, mais en fait, on s'en laisse pas. À chaque fois, on le vit.
Et c'est pas facile pourtant, hein, mais.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il est un peu agressif quand même. Hein.
Oui, mais on le vit chacun de notre façon. Alors moi à la base je voulais vous faire un pourquoi est-ce qu'on mange des crêpes à la Chandeleur et je me suis dit que d'une part c'était pas la Chandeleur et d'autre part parce que j'étais un peu déçue de la réponse donc je me suis dit non
parce que c'est bon
bah fais-nous voilà. Quand même
ouais non mais en gros c'est parce que on mange un truc avec du blé pour que les récoltes soient bonnes enfin voilà des trucs comme ça non mais voilà enfin,
c'est exactement ce que j'ai dit quand je fais mon quatrième pancake du matin c'est pour que les récoltes soient bonnes.
J'ai pas du tout fouillé en profondeur mais
ouais, t'étais pas ça.
Non, voilà, peut-être que je vous le ferai une autre fois, et puis du coup, avec plus de détails, tu vois, mais là, j'étais pas inspirée. Du coup, je me suis dit, non, mais cherche une question un peu plus profonde, et j'ai failli manger le micro, là.
Désolée. Une question profonde, tu disais.
Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, un truc plus à fond, et je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on fête le 1er janvier, enfin, à savoir le nouvel an, le 1er janvier.
Moi, j'avais une explication, mais qui ne t'a pas plu, donc on va... Voilà.
C'est parce que c'est le 1er janvier et pas le...
Bah ouais, parce que sinon, avant, c'est décembre, quoi, donc voilà. Le 1er janvier arrive, bah...
Puis après, c'est février, quoi, enfin...
Bah c'est ça, ouais, c'est problématique. C'est mon explication.
Ça n'a rien à voir avec les astres, avec...
les
astres.
Les astres.
C'est pas bien.
Elles sont toujours là.
Je sais pas bien resté, mais...
Elles veulent de l'amour, de la joie et le 1er janvier.
Ou Jésus, ou un truc comme ça.
En gros, en vrai, moi, je dirais un truc païen de jour le plus long, jour le plus court, un micmac.
Ouais,
je sais, mais peut-être historiquement.
Plus ou moins de ce délire-là. C'est-à-dire que en 45, avant Jésus-Christ,
Connais ce nom-là.
Qui est
Jésus-Christ.
Qui est un des hommes les plus puissants du monde en 45 avant Jésus-Christ?
Jules César.
Et tout à fait.
Oh.
Et notre ami Jules César, c'est un peu le zbeul au niveau
des dates,
des machins et tout. Donc en fait, il va refaire le calendrier romain qu'on va appeler le calendrier julien. Qui a été utilisé parce qu'il y a des tonnes de calendriers qui existent sur Terre. Hein. Et,
du coup, Julien, c'est qui vient de Jules.
Oui, tout à fait.
C'est fou. Ah, ça vient pas de la cuisine.
Mais non, mais en vrai, j'avais jamais fait le rapprochement.
Mais oui.
Que Julien, c'était descendant de Jules. Ok.
Ah oui, Jules César.
Mais oui,
et Julien. Là, maintenant, je comprends.
Bah oui.
Ouais, je voyais pas.
Mais oui, calendrier
mais
Julien.
Non, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de Célio à l'époque non plus.
N'importe quoi.
Bah, ça va être facile à finir. Hein.
Voilà. Et ce n'est que le début. Et donc, Jules César se dit, bah, en fait, on va caler le début d'année dans son calendrier. On va caler le premier de l'an, en gros, le 1er janvier, parce que ça, c'est commode, ça coïncide avec tout un tas de trucs. Donc, notamment, je crois que c'est le 1er janvier qu'on débute ou que se boucle, je ne sais plus vraiment, l'élection des sénateurs. Donc, voilà, il y a un petit côté...
Okay, ils se sont dit, on fait ça en hiver, parce que, de toute façon, il n'y a pas de spectacle en extérieur. Donc,
Voilà, mais ère nouvelle, on a les nouveaux sénateurs, fin d'une période, début d'une autre, super. Et puis, il y a des festivités de Dieu aussi, forcément, qui coïncident plutôt bien. Enfin, bref, voilà, le 1er janvier, c'est assez commode.
J'avoue, j'aurais adoré avoir le 1er janvier au printemps, personnellement. Ça, le renouveau de la nature, et tout, tu dis, c'est beaucoup plus...
Mais justement, tu vas voir. Ah. Parce que du coup, le sujet s'arrête pas là, parce que là, ce sera un peu haché, que je dis, c'est juste César qui a décidé.
Allez,
vaguement, il y a des dieux et des sénateurs dans l'histoire, bisous.
Et Abemouth, pas mal. Allez,
non, en fait, du coup, ça perdure hein, pendant des siècles et des siècles. Et que se passe-t-il? Eh bien, il y a en parallèle, assez vite, un truc qui s'appelle la chrétienté qui va se développer, d'un côté.
Oui.
Et un truc qui s'appelle les invasions barbares qui arrivent en même temps. Et donc là, bah, clairement, c'est la fête à la truite, quoi. C'est-à-dire que chaque peuple va décider de fixer son début d'année à son moment fétiche.
Ce qui est chiant, parce que si ils se disent, tiens, et si on faisait la bagarre lundi en 8,
absolument.
Autant que ça tombe en même temps. Sinon,
c'est quand lundi en 8
ouais, voilà.
Non, mais au-delà de ça, c'est qu'on va finir par se retrouver avec des régions d'un même pays qui n'utilisent pas le même calendrier.
Ouais,
des cités qui n'utilisent pas le même calendrier dans la même région.
Bordel.
Le gros bœuf. Donc puis ça change en fait selon les souverains. Par exemple, on va prendre le simple exemple de la France. Et la France, elle n'existe pas encore vraiment au début du Moyen-Âge, donc à prendre avec des guillemets, mais les frontières de notre France actuelle. Mm-hmm. On a un empereur que vous connaissez un petit peu qui s'appelle Charlemagne. Non, ni Alsace, ni la Moselle. Et on a un empereur qui s'appelle Charlemagne. Et Charlemagne, il aime bien Noël.
Il veut faire son anniversaire, mais c'est chiant d'envoyer les invitations parce que différents calendriers.
Non, mais Charlemagne, il aime bien Noël.
Okay.
Ouais, il s'est fait sacré empereur le jour de Noël. Déjà,
Moi, je le comprends.
Il aime bien Jésus.
Il y a des décorations. Ah non, moi, moins Jésus, mais...
Et il s'est dit... Moi, je dis, mettre la nouvelle année le jour de la naissance du Christ, c'est quand même sympa. Donc bah, déjà, tac, sous Charlemagne, c'est le 25 décembre. Et puis, on a les Capétiens qui vont arriver et puis qui vont dire... Bah, en vrai, le jour de Pâques...
Pardon.
Donc, toujours dans la suite du Moyen-Âge.
Encore voilà, les profs qui font chier, qui disent non, on veut la nouvelle année.
Donc, non, les rois capétiens vont se dire non, mais on aimerait bien ça le jour de Pâques. C'est sympa. Donc, ça change quoi.
Ah ouais.
Bah, justement, ce qui est sympa avec Pâques, c'est que ça tombe jamais le même jour dans l'année.
Oui, j'avais oublié ça. Oh le bordel.
Donc du coup...
Ça tombe quand le 1er janvier cette année?
Voilà, le 1er de l'an, t'étais grosso modo entre le 20 avril et le 5 mai. Quoi.
Et puis si je peux me permettre, on peut bien se rendre compte que ça tombe pas la même année sur un calendrier sur lequel c'est censé être basé.
Oui, non mais...
C'est Tenet là. C'est,
j'avoue.
C'est le scénario de Tenet là, globalement.
Mais on est d'accord que tous ces mois des différents calendriers, ils ont pas le même nom. Ouais, d'accord.
Oui, pas non, ils ont des noms qui changent un peu, mais pas tant que ça au final.
Donc t'étais pas obligé de dire, on se retrouve le 25 décembre du calendrier, machin.
Non. Et ensuite, ça va varier même selon les villes, c'est-à-dire que là, il y a des villes en France où on fait le nouvel an le 1er avril, d'où le fait de s'offrir un poisson, parce qu'en fait, en période... Enfin, de
chrétien.
Comment ?
C'est un signe chrétien ?
Ouais, il y a un signe chrétien. Le poisson du 1er avril, ça vient du fait que tu te fais des cadeaux et donc t'offrir un poisson chrétien en période de fête de fin d'année. Mm-hmm. Tu te fais des cadeaux, donc tu pouvais t'offrir un poisson. Et puis le fait qu'on arrive à la fin de Pâques, à la fin de Carême, donc du coup, tu t'offres un petit poisson. On va casser le jeûne, on va bouffer un poisson.
Mm-hmm. Okay.
Voilà, en gros. Et dans d'autres villes, ça pouvait être le 25 mars, donc la date de l'équinoxe.
Sacré bazar. Mais,
oui.
Mais pour le coup, l'équinoxe, moi, ça m'aurait
oui, c'est plus logique.
C'est pas faux.
Oui,
parce
oui.
que tu vois, dans Bambi, encore une fois, je reprends Bambi, excusez-moi, mais t'as la nature qui s'ouvre, qui, voilà, tu te dis, il y a un truc à fêter. Alors que le 1er janvier, il caille, bon, bah, pas ouf, hein.
Non, c'est galère. Et justement, on a au XVIe siècle un roi de France qui s'appelait Charles IX. Alors Charles IX, pour vous le situer très rapidement, pour ceux qui ont des bases en histoire, c'est le fils de Catherine de Médicis, mmh. et c'est le roi de la Saint-Barthélemy.
Ok.
Voilà, pour vous situer grosso merdo Charles IX.
C'est des noms que n'est-ce je
pas.
Connais.
Et donc Charles IX, bon, il ne devait pas monter sur le trône de France, mais son frère est mort, et donc tout pipou, il va devoir monter sur le trône. Et sa mère lui dit, écoute, ce serait bien qu'on aille se faire un petit tour du royaume de France, de ton terre-terre, tu vois.
Ils font la tournée, le bus tour, c'est parti.
En gros, et que t'ailles un peu voir tout ce qui t'appartient, quoi.
Simba, tout
ceci. C'est exactement ce que j'allais dire.
Tout ceci t'appartient.
Façon Simba et Mufasa, on va aller jusqu'à la frontière de la rivière, quoi. Et donc ils font ça, donc ça leur prend plus d'un an où il va faire en gros son tour de France. Et il est tout jeune.
D'où le nom.
Comment?
D'où le.
Oui, voilà. Et il est tout jeune. Et puis bon, tu vois, tu te dis quand même que. Fêter 7 fois le nouvel an en un an et demi, c'est quand même chelou, quoi. Tu réalises qu'il y a quand même des disparités dans le royaume. Donc il s'est dit, ce serait peut-être bien d'unifier tout le tsoin-tsoin. Et donc, il va prendre la décision de faire un édit qui s'appelle l'édit du Roussillon, qui va être publié, enfin validé en 1564, de dire, eh bien, on va fixer le nouvel an au 1er janvier. En se basant du coup sur Jules César, en se disant au final Jules avait quand même plus ou moins raison. Donc la France, on n'est pas le seul pays d'Europe à faire génial. Ça, étant donné que 20 ans auparavant, on avait Charles Quint en Espagne qui avait déjà fait la même chose pour le Saint-Empire.
On trouve un petit alignement.
Exactement. Donc on s'aligne. Et à peu près 20 ans après que la France fasse passer ça, on a un pape qui s'appelle Grégoire XIII qui va dire non, mais bon, puisque le Saint-Empire et la France s'y sont mis, on va dire que c'est la date du Nouvel An pour toute l'Europe. Ouais, pour
toi, plus moi.
Pour toute l'Europe, maintenant, pour tout le monde catholique, en tout cas. Et donc, il se dit, mais tiens, j'en profite pour aussi aligner quelques autres dates, et il va inventer le calendrier grégorien, du coup, ce pape Grégoire, qui est le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, tout simplement.
Classe. Bon, grégorien et Grégoire, celle-là, je l'avais quand même.
Voilà.
J'étais pas si cool.
Ben, c'est Grégoire XIII, et c'est en 1582 qu'on a le calendrier grégorien, notre calendrier actuel. Et depuis, bah, on s'y tient, sauf à la Révolution française, là, pendant quelques années... c'est la fête du cible du calendrier.
Le jour des marrons chauds, allez.
Mais je me tâte un jour à vous faire un sujet que sur le calendrier révolutionnaire.
Il me semble que tu nous avais parlé
en première saison
même. C'est...
Ouais, j'en avais parlé, mais je me dis, ce serait rigolo de faire un sujet là-dessus, parce que
en même temps, il y a tellement à dire...
Ah, mais oui, enfin tu sens qu'il y a eu de la weed à l'Assemblée nationale.
Le jour du popcorn salé. C'est
Et ben là, du coup, le nouvel an, c'était le premier Vendémiaire. Donc, Vendémiaire, c'est.
La Vendée.
Non, moi, je dirais que c'est le mois des vendanges.
Ah oui, ça se tient.
Enfin, c'est la période des vendanges. Mmh. C'est ce que je dirais.
Ou c'est un peu le vendredi de l'année.
Ou peut-être la fin des vendanges, je sais pas. En tout cas, ça tombait à l'équinoxe d'automne, donc en octobre. Donc, c'est un peu tard pour les vendanges.
Ouais, je préfère me dire que c'est le vendredi de l'année. Tu vois, c'est un peu la fin de l'année, mais pas tout à fait non plus.
Mais en tout cas, voilà, pendant un peu moins de 10 ans. Je dirais, max 10 ans, on a eu ce truc-là à ce moment-là. Et Napoléon, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit oh, on va arrêter vos conneries. Parce que déjà que vous avez inventé les kilogrammes, les mètres, les machins, on s'en sort plus, vous n'allez pas en plus nous changer les dates. Quoi.
Ouais, donc, voilà. j'avoue, je comprends.
Voilà.
Très cool, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Mais c'était un très gros pourquoi.
Bah,
oui, tout à fait.
Mais fort bien répondu. Mais c'est vrai qu'un pourquoi camillien, parce que ça vient de Camille, c'est un sujet iliacien au final. Par contre, en vrai, c'était très, très, très cool. Et hâte d'avoir ce sujet sur le calendrier révolutionnaire, bien, parce que c'est vrai que c'est très rigolo.
Oui, c'est vrai que c'est marrant.
Et je vous propose
de
faire de la musicalité.
C'est parti.
Si vous préférez la chanson orientale à la musique brésilienne, un autre grand événement est à votre porte. Une nouvelle étoile s'est accrochée au firmament de la chanson orientale. Warda va tenter de conquérir le public français. Elle sera accompagnée par les anciens musiciens d'Oum Kalsoum. Un reportage de...
Ichouchou. Génial.
Merci, merci.
C'est vrai parce qu'on dirait qu'il annonce un Guinness Book Record. Elle va tenter de conquérir.
C'est vrai.
On dirait qu'elle va faire 3 saltos dans son slip. Ou...
C'est un énorme... Enfin, il parle pendant, sans déconner, 10 minutes. Du coup, j'ai haché le truc pour essayer de...
Non, mais t'as très bien fait parce que ça aurait été chiant.
Donc, petit récap pour... déjà, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à...
Oui, l'épisode de la semaine.
C'est ça.
À l'épisode
2. Vous mettez pause et vous allez sur l'épisode précédent.
Tout à fait.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc, elle s'est mariée, elle s'est retirée de la vie artistique.
Pendant 10 ans.
En 1962, du coup. Et donc,
mais elle chantait encore chez elle, c'est-à-dire
elle chantait
à la maison.
Voilà.
Donc, elle n'avait pas perdu ça. Donc 10 ans après.
Sous la douche.
On est en 1900.
72.
Oh, ils sont trop forts.
Oh là là.
Et la chanson lui manque un peu. Donc elle.
Oh, puis peut-être les tunes qui vont avec aussi.
Oh, c'était une société de l'époque, c'est l'homme qui ramène la thune.
C'est vrai, c'est vrai.
Pas non plus. Mais est-ce qu'il gagnait autant que ce qu'elle a gagné?
Je suis pas sûr quand même.
Mais c'est pas le sujet. Donc, 1972, à la demande de Houari Boumediene, donc c'est le président algérien de l'époque, Warda revient avec Menbaïd. Menbaïd qui veut dire...
Je sais pas.
Très bien, c'est exactement ça.
Oh là là.
Et
de loin.
Ah, j'avais compris, de l'orange. Moi, j'étais là. De l'orange, quoi.
Menbaïd.
Menbaïd. C'est une chanson composée...
Depuis la distance.
D'accord.
C'est une chanson composée par Balir Hamdi. C'est un compositeur qui a notamment bossé avec Oum Kalthoum. Et le truc, c'est que ça ne plaît pas trop au mari de Warda. Il ne voulait pas qu'elle revienne sur scène, qui va s'occuper des enfants, dis donc. mais il lui autorise quand même ce récital-là, parce que, bon... De un, c'est le 10e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et de deux, c'est le président qui lui demande l'admission.
Donc je pense que c'est gros, si tu veux rester en vie, vas-y, laisse tes meufs chanter. Quoi.
C'est ça, le mec, il a quand même l'aéroport d'Alger à son nom. Tu vois.
Ça va,
ça va. Ça se dit rien. Donc, elle chante Menbaïd. De loin, je t'appelle mon espoir et l'acclame de loin. Je n'enlèverai pas mon seul amour pour des souvenirs éternels. La voix de l'Algérie, Ya Habibi. Malgré les calamités, mon cœur vit toujours avec toi. Du coup, elle reprend le goût de la musique. Elle décide donc de revenir sur scène, balèque de ce que son mari pense. Elle continue la musique.
Est-ce qu'elle l'a quitté ?
Eh bien, 9 ans plus tard, après 9 ans de mariage, elle divorce
de
Jamel.
Wow.
Et elle perd la garde de ses enfants.
Oh
ah non !
Oui, c'est le garçon qui choisit. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Elle retourne du coup en Égypte et elle se met à travailler avec Balir Hamdi. Elle l'admirait depuis très très longtemps et c'est pas tous les jours qu'on a la chance de travailler avec quelqu'un qui a côtoyé les grands. Mm-hmm. Mais il faut aussi savoir que Balir Hamdi, lui aussi, est un admirateur de Warda.
Oh.
Il se marie en 1973.
C'est ce que j'allais dire, il y a Baleine sous gravillon là. Ouais.
Ah bah dis donc, ça s'est séquencé plutôt. Après, c'est vrai que la vie commune à l'époque était pas trop acceptée en mariage. Donc pour avoir vie commune, il fallait se marier.
Mais en tout cas, le duo fonctionne à merveille. Là, on est en train d'écouter une chanson d'eux.
Comme Souchon et Voulzy au final.
Entre le génie musical de Balir.
C'est quoi cette comparaison?
Pardon,
et le romantisme.
Étonnante.
Mais pas tout à fait inapproprié. Pardon, vas-y, donc le romantisme.
Le romantisme de et la puissance de la voix de Warda et puis le génie musical de Balir, voilà, c'est.
Comme ce que je vois. Excusez-moi.
J'avoue, c'est. Pas mal.
Non, mais par contre, désolé, je voulais pas te couper tout à l'heure, mais. Donc elle a arrêté la musique 10 ans et elle a été mariée pendant 9, c'est ça ?
Mm-hmm.
Donc au final, c'était quasiment toute sa pause musicale.
Ouais, tu sais, tu te rappelles, en 62, elle est arrivée en Algérie après l'indépendance.
Elle a arrêté la musique.
Elle a continué, elle a rencontré son mari.
Ouais, ok.
Et c'est, ouais, voilà, elle a arrêté quand elle a rencontré son mari. Et puis un an après, ouais, ils sont mariés, donc 9
ans. Ok, ouais, donc c'est quasiment toute sa... Ok, donc ce mec n'était pas très bien pour
elle. Et attends ! Attends, parce que j'ai quand même fait mes recherches depuis le dernier épisode. En parlant de Sabah, petite anecdote. Donc, au premier épisode, j'avais dit qu'elle avait enregistré 3500 chansons et 50 albums.
Ah bah oui,
voilà. On était sur le 3500.
En fait, non, c'est 32.
Non,
et c'était pas du tout dans un cabaret, non, c'est dans sa salle de bain.
Sabah est née en 1927. Et d'après Wikipédia, chose qu'on a encensée au premier épisode.
Tout à fait.
Sabah commença à chanter en 1940 et a publié depuis 1943, donc en 3 ans de carrière, mesdames et messieurs, plus de 50 albums et a interprété 3500 chansons.
T'as marre, en 3 ans.
Depuis 1943, donc entre 1943 et aujourd'hui.
Ah
je pense parce que et puis surtout, attends, mais c'est interpréter 3500 chansons, mais.
En 3 ans, elle dormait pas. Ou alors les chansons faisaient 4 secondes.
Officiellement, on coupera ça au montage.
Non, mais c'est très bien comme ça. C'est,
Bon, moi pas parler beaucoup français.
Ça me fait repenser à la fois où j'ai vu Ilias mesurer la taille du pied du Bigfoot avec ses mains.
Avec ma chaussure. Non, mais l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci. Mais même.
Oui,
mais de manière générale, que ce soit en 3, en 10 ou en 20 ans,
c'est énorme.
3500.
Oui, quoi qu'il arrive.
Même Johnny l'a pas fait.
50 albums, c'est énormissime.
C'est monstrueux.
Enfin, je veux dire, et à mon avis, ça inclut pas des best-of.
Ah si, à 50, je crois que Johnny l'a fait.
Mais oui, mais attends, mais il y a des best-of, il y a des, tu vois ce que je veux dire? Il y a le meilleur de Johnny. Enfin,
j'aime bien la petite voix, le meilleur de Johnny.
Le meilleur de Johnny 2, il y a tout Johnny, mon Johnny que je préfère. Ouais, effectivement.
Donc, on revient?
Ouais.
Ouais, donc voilà, c'était marié à Bali Hamdi, le duo fonctionne.
Très bon duo.
Enfin, elle fonctionne à merveille. Et elle continue aussi le cinéma, tu te rappelles, elle avait fait deux films qui avaient fonctionné. Et c'était un très très gros succès, tout va bien. Mais... Elle dit problème.
Elle fait une coluche.
Non, Warda voulait un enfant. Mais Balir, il ne voulait pas.
Ah.
Il ne voulait pas, du coup, avec le temps, leur relation se dégrade et ils finissent par divorcer en 1977.
Oh, dur.
Oh. C'est la vie. Hein. Il ne voulait pas qu'elle chante des chansons d'un autre compositeur. Donc, un peu possessif.
Ah oui, mais la pauvre, elle est tombée sur des hommes.
Bon, après, c'était pas à l'époque de la liberté féminine.
Non,
mais...
pas trop.
Non, mais quand je dis ça, c'est que dans
tous les
cas...
Oui, il faut recontextualiser.
Dans tous les cas, je veux dire, non, mais c'est pas pour défendre lui, c'est pour dire qu'elle, il y a peu de chances pour qu'elle ait... Enfin, t'avais pas beaucoup de chances de trouver un mec qui était pas dans cette optique-là. Mais c'est vrai qu'elle a pas eu beaucoup de chance.
Non, clairement.
Elle a pas eu de chance, et puis surtout, clairement, elle a commencé à en avoir ras sur le pompon de chanter des chansons sur le Nil, sur l'Égypte, sur l'amour, sur
Nil,
les yeux, la lune,
Nil,
le cœur.
Nil, ô fleuve impétueux.
Non, mais c'est vrai, toutes les paroles que je vous ai traduites depuis tout à l'heure, c'est un peu ça.
Ouais.
Y a à base de Habibi, à base de patriotisme.
Ah, bah, tu vois comment j'en ai vite une quand j'étais plus jeune. Hein,
Elle voulait un truc avec des sens profonds, un peu comme des chanteurs qu'on avait ces époques-là, Dalida, Claude François.
Des paroles un peu... c'était cette période-là, oui, exactement. Oui. Ouais. Mais en tout cas, dans la musique arabe, il n'y en avait pas. Et en plus de ça, on voulait absolument lui faire suivre les pas de Oum Kalthoum. Donc de rester sobre, de ne pas trop se rapprocher du public. Genre vraiment de rester dans les codes arabes, tout simplement. Et après le divorce, tout le monde pensait qu'elle était sur le déclin. Mais elle revient avec une chanson composée par Abdel Wahab, Fiyoum wa Leila, en un jour et une nuit. Et c'était un gros succès. On commençait à avoir un peu plus de synthétiseurs oriental qu'on entend, qu'on entend beaucoup dans le rail. Et c'est un peu plus occidentalisé. On entend la guitare électrique. Tu fais tellement mal la danse de l'épaule.
Je danse.
Ah, quelles sont jolies les filles.
C'est ce que je me suis dit aussi.
Ah, quelles sont jolies les filles de mon pays. Si, si, il y a un truc. Hein.
Enfin bon... Comment tu veux que j'enchaîne avec ça? Non, elle veut vraiment pas être comparée à Oum Kalthoum.
Il y a une réco, je pense.
Il y a une réco, ouais.
Et enfin, du moins, elle disait qu'elle se considérait pas comme la continuité d'Oum Kalthoum, même si elle s'en est beaucoup inspirée. Elle a sa propre identité musicale. Et c'est très flatteur pour elle, mais elle disait « Je suis une mouche à côté d'Oum Kalthoum. »
Oh.
Et elle chante avec
très
le temps...
Enfin,
avec, avec le temps, elle change son répertoire, mais surtout avec les paroles. Là, on entend Dandana, qui veut dire le murmure. Je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. Sans toi, ma vie serait sans intérêt, sans harmonie, sans joie. Et sans murmure. Juste le murmure. Murmure, c'est un terme qui n'a jamais été utilisé. Elle a vraiment cassé. Non, mais dans une chanson, c'est trop. Ça commence à être un peu plus olé olé que oh le Nil qui.
Oui, mais peut-être que table basse, ça n'a jamais été utilisé non plus.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. T'es con.
Pardon. Non, mais alors par contre, du coup, c'est. Encore une fois, cet audio. Alors, c'est peut-être parce que depuis deux semaines, je n'avais pas réécouté de musique orientale, mais c'est exactement les trucs qui me hérissaient le poil avec un truc qui va plus dans les aigus que ce qui se faisait auparavant. Mm. Et c'est vrai que ça me... Ah.
Si tu veux sortir, je t'invite à partir.
Non, mais pardon,
je
partageais une tranche de vie, pardon.
Bah, en tout cas,
je reprends ma tranche.
Elle joue aussi dans une série télé.
Mais si, amour.
En 1979, qui résonnera beaucoup avec sa vie. Ça s'appelle Awraq al-Ward, les pétales de rose. C'est une sorte de telenovela.
Les noms me vendent du rêve à chaque fois. Quoi. Il est toujours question de fleurs.
Et puis là, Warda, quand même, voilà, il fallait faire un petit truc. Et c'est l'histoire en fait, d'une femme qui a été privée de son enfant, donc, comme elle. Et franchement, j'ai regardé 3 épisodes.
Et c'était bien ?
Oh, qu'est-ce que ça joue mal, bordel de merde.
Oh, mon Dieu ! Oh là là !
Et puis les habits des années 70, c'était vraiment quelque chose. Genre, à un moment, il y avait un mec avec une cravate assortie, avec sa chemise à rayures blanc cassé et rose saumon. Oh, c'était magnifique.
Je crois qu'on aura besoin de photos.
D'écran.
Ouais,
est-ce
que j'ai...
Je le note tout de suite. Enfin, bref. Elle avait quand même, enfin, il y avait du succès dans cette série-là, puisqu'il y avait une ou deux chansons par épisode, donc voilà, elle continuait dans sa lancée. Et elle fera un Olympien en 79.
Pas mal. Hein.
J'ai pas vraiment connu l'époque des francs, donc enfin le franc, la monnaie.
Mais moi là dans ma tête, j'ai Clovis qui arrivait ouais. sur son cheval et j'étais là. Moi non plus et j'en suis assez triste.
Et je comptais sur notre invité pour nous donner son expertise tellement qu'il est vieux, mais en tout cas les prix allaient jusqu'à 200 francs donc.
Ça fait 30 balles, mais 30 balles ouais, de l'époque.
J'allais dire que c'est 30 voilà. balles, ouais.
Mais de l'époque, qu'est-ce ouais. qu'en 79
ouais, de l'époque, je pense que c'est beaucoup, parce qu'avec l'inflation et compagnie, ouais, aujourd'hui, un concert à 30 balles, il est en tout cas...
30 balles, ça faisait beaucoup de bonbons à la boulangerie.
Ouais, ouais, oui. Oui, mais pareil, ça fait beaucoup de pièces de 1 centime, mais... Une question déjà, là.
Enfin bon, le truc, c'est que... Bah...
Ah, années 80, 30 balles, je pense, c'est pas mal. Hein.
Ah, mais je pense.
Pardon.
Non, mais
tu faisais un sujet peut-être.
Non, mais c'était ma question en plus. Très bien. Okay, donc, ça, dans tous les articles que j'ai lus, ils disaient ça comme si c'était le gros truc. Mmh. Mais enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, bon, voilà, le temps passe et le goût des gens change aussi.
Ouais.
Et là, il y a un petit extrait dans un reportage que j'ai entendu en 79 qui disait déjà.
Vous aimez Warda ?
Pas tout à fait. Moi, je préfère Om Kalto, mais Warda un petit peu. Hein. Je préfère maintenant, moi, parce que je vis en France, pas les chansons arabes. Hein. Je préfère les discos, les chansons de Michael Jackson, Bob Marley, comme la nouvelle génération. Hein. Warda, en principe, pour moi, c'est pour les dames, oui. Et pour les hommes, surtout la nouvelle génération, c'est pas intéressant. Hein.
C'est un mec ?
Oui, c'est un mec.
Oh mais c'est, j'avais l'impression d'entendre un truc de Guillaume Meurice quoi.
C'est vrai.
J'ai vraiment c'est avec c'est son vrai. Esthéticienne et tout. Oh non les Arabes moi j'aime pas trop, non c'est pas mon truc.
Mais voilà ça les styles changent et
oui,
commence
vrai,
à être un peu has-been. Donc les années 80 arrivent et là boum succès. Elle fait plein d'autres succès, mais avec d'autres gros compositeurs du moment. Donc ça suffit.
Jean-Jacques Goldman.
J'ai pas noté les noms.
Vu l'époque, ce serait pas
ouais, dégoûtant. Mais non, elle chantait, même si elle a fait quelques chansons en
J'irai
arabe,
où
en
tu
français.
Iras.
Non, mais en vrai, elle a fait quelques chansons en français. Elle a chanté avec Georges Moustaki.
Bah, pardon, mais.
Ouais, c'est clair.
J'ai plus le truc, mais.
Il a dessiné une rose. Pardon, on regarde les notes de Yves.
Elle a même chanté Fait comme l'oiseau.
Oh! Bonne chanson bien chante, tiens.
Oh, moi j'aime bien.
Ouais, dis pas du mal de Michel ouais. Devant Hicham.
Balek.
Eh bah, pardon.
Et. Du coup, donc voilà, elle fait plein de gros hits avec des compositeurs du moment. Mmh. Et en plus de ça, elle raccourcit le temps des chansons. Parce qu'une chanson pouvait durer facile. Mais quand je dis facile, c'est vraiment facile. 45 minutes, 1 heure.
Ouais, ça fait long. C'est...
Ça fait une chronique à peu près de Camille. Mais, mais non, c'est
mais
vrai.
Mais c'est méchant.
C'était facile.
C'est pas
facile.
Parce que c'est vrai qu'il faut le dire. Hein
mais...
C'était facile.
Je suis plus sûr de chronique, je vais voir.
Et
les années. Pourquoi qu'elle fait 10 minutes ?
Mais.
Pardon, vas-y.
Dans les années 90, elle sort des chansons encore plus courtes pour plaire à la nouvelle génération. Et en 91, 92 et 94, elle gagne le prix du meilleur album.
Pas mal.
C'est pas
mais,
mal
attends,
du tout.
Où ? En France ?
Dans le monde arabe.
Ok, ok. Mais
vraiment, c'est. Là-bas, je me rappelle quand j'y étais, par exemple, la Starac et tout, c'était pas juste un seul pays. C'était
okay, ouais.
Vraiment, ça allait de, c'est quoi tout à gauche, le Maroc, jusqu'à, ça va du Maroc, je suis fatigué, ça va du Maroc jusqu'à...
Ouais,
à
non, mais je
crois il y a vraiment... une équivalence de l'Eurovision, mais dans le monde arabe.
Je ne sais pas.
Avec, tu sais, un côté un peu...
Kitschoui, comme ça.
Un peu beauf,
chelou,
comme on aime, tu vois.
Ouais, je t'avoue que je sais
un
pas.
Un peu croquant
je
sous la dent, comme ça.
Je pense pas qu'il y ait des gens nus qui chantent avec un ours.
Avec un loup.
Ouais, non.
Ou voilà. Un groupe de hard rock.
Mais par contre, c'est pas impossible, parce que depuis une 10-15aine d'années, ça c'est le... Bah, comme tu parlais tout à l'heure du panarabisme, etc. Mmh. Ça s'est beaucoup développé, justement, grâce à la pop culture. Mmh. Qui était déjà développé, mais avant c'était très d'un point de vue consommateur, genre consommer les séries égyptiennes, consommer la musique, etc. Et là, bah, on peut plus facilement contribuer parce qu'il faut un micro, une caméra et boum, c'est réglé. Donc on ne sait pas, mais peut-être à voir.
Peut-être, je mènerai mon enquête. En tout cas, Warda devient la plus grande star du monde arabe de l'époque.
1m95.
et malheureusement, Warda a la santé fragile. La pauvre, elle a enchaîné.
La fleur se fane.
Oui. Elle a enchaîné donc le diabète, donc déjà pas
cool.
Pas
cool du tout ça.
En 93, elle fait un premier infarctus.
Infarctus, mais ok.
infarctus.
Pardon, désolé.
Non, mais vous avez raison. En 96, elle subit une opération du cœur avec un triple pontage.
Ah la vache.
Avec, c'est une greffe des vaisseaux sanguins. En plus de ça, elle a l'hépatite C. Elle enchaîne avec un cancer du sein.
Mais non.
On réussit.
Mais attends, désolé, mais elle a pas la santé si fragile que ça, parce que survivre à tout ça.
Elle a survécu à tout ça, en fait.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Ah non, mais c'est mourir. Mais bon, incroyable. On lui retire quand même la tumeur, donc ça va
mais
un peu mieux.
C'est le biais de sélection dont je parlais il y a 4 semaines maintenant. C'est genre, en fait, c'est pas qu'elle a la santé fragile, c'est qu'elle est extrêmement résistante.
Ah non, non, mais elle est hallucinante.
Après,
c'est
8 cancers, un infarctus,
4 sida. Elle continue. En 2001, elle a un foie qui lâche, elle a 2 doigts de mourir.
Un foie qui lâche.
Heureusement qu'il reste le deuxième.
Non, elle a des problèmes de foie.
Ah oui, c'est possible, mais en fait, on n'a qu'un seul foie.
C'est le foie.
Ouais.
Ouais, bah, du coup, ça reste quand même un
foie. Oui, mais du coup, c'est bizarre.
Oui.
C'est comme j'ai un cœur qui a lâché.
Oui. Heureusement, j'ai celui de secours.
Ouais, c'est ça.
L'idée est là, quoi.
Ok, quelque chose. J'ai une idée.
Dans tous les cas, c'est la merde.
Foie qui lâche, mais du coup, elle était vraiment à 2 doigts de mourir. On trouve à la dernière minute, ou à la dernière seconde, enfin bref, je sais pas compter.
Un foie de secours.
Un foie de secours. Donc, voilà, tout va bien. Mm-hmm. Et en 2004, et pareil, en 2006, elle a des problèmes de rein.
Ah.
Ouais, du coup, voilà, elle a.
Ouais, donc vraiment, elle a pas facile. Hein.
Non, mais elle a un mental de ouf. C'est vraiment une warrior.
Bah, c'est tout ce qui va.
Parce que
non, mais alors... j'allais dire tous ses organes ont merdé, quoi. Mais
enfin, avec c'est... tout ce qui s'est passé, à chaque fois.
Donc... Il lui reste le pancréas.
Elle ressort en album.
À chaque fois, elle revenait sur scène.
La vache.
Tu lui laisses quand même son moment de convalescence.
Oui, ou, oui, j'imagine. Voilà.
C'est incroyable.
Mais elle revenait toujours sur scène.
Bah pour payer les frais médicaux, hein, parce que là, la sécu n'existait pas encore, donc.
Mais voilà, le truc c'est qu'elle est humaine. Le 17 mai 2012, elle meurt en Égypte d'une crise cardiaque.
Un âge
75 ans, je crois.
Ok. Ah bon, oui,
c'est
jeune,
ça, 73.
Bah jeune, quand même, 73, c'est pas vieux,
oui,
hein, pour
mais
mourir.
Je trouve plutôt honorable après avoir eu 10 maladies majeures.
Et en Égypte, on fait une.
Parce que t'imagines, t'as ce dossier médical, tu te présentes à un médecin, il fait non, mais il y a trop de trucs là, enfin. Bah, je peux pas analyser, je peux pas analyser votre cas, là, vous avez 4 infarctus.
Tu paries trucs. Plus sur un viager que sur un prêt sur 10 ans, ça c'est
oui,
clair.
Oui, c'est ça. Voilà. Et sinon, vous habitez où?
Et du coup, voilà, un hommage national en Égypte, on fait la prière pour elle, et puis elle est enterrée en Algérie. Mmh. Mais ses chansons resteront immortelles, elles résonnent encore aujourd'hui. Il suffit de passer le début de n'importe quel. Enfin, surtout ses dernières chansons, par exemple, je l'ai mise dans le jingle. Tu mets ça à un rebeu, c'est direct.
Oui, bah ouais, je veux pas parier, mais je pense que ma daronne.
Voilà. Et puis, pareil, avec Haram Tahabbak. Juste ses notes.
Ah ouais, c'est les intros de tube,
ouais,
quoi.
C'est le début de sa chanson. Mmh. Dès que t'entends ça, t'es dans un mariage, c'est waouh.
Tout le monde flex. Voilà, il danse avec le manche à balai et tout. Mmh.
Donc voilà, c'est la fin de mon sujet. Donc je vais le clore je vais clore mon sujet sur cette petite parisienne, cœur algérien, qui a su conquérir non seulement le cœur des Libanais, des Égyptiens, mais du monde entier. Je laisse donc mes derniers mots à notre cher Charles Aznavour.
Bon, vous n'entendez pas ce que je parle en arabe, parce que j'aurais tout de même beaucoup de difficultés. Je suis venu ici uniquement parce que je connais Warda de longue date. C'est une amie qui a un talent extraordinaire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous le remarquerez. Elle chante de l'âme, elle parle au cœur. Même si vous ne comprenez pas la langue, vous êtes obligé d'être touché par son art. C'est la plus grande chanteuse du monde arabe. La musique n'a pas de frontières, la musique n'a pas de restrictions.
Très très classe.
Voilà, c'était hyper à l'Olympia en 79, le 10 septembre, je crois.
Oh putain, oui.
Ouais. Et
il était déjà là.
Un mardi, il pleuvait.
Non, très très classe. Bah, merci beaucoup pour ces deux sujets, j'ai adoré.
Merci
très
à vous.
Très touchant.
Comme je disais, ça fait vraiment super longtemps, ça fait plus d'un an d'où est venue l'idée. C'était
une éternité, je rappelle.
Non, mais ça fait vraiment super longtemps parce que j'avais fait l'expo Diva du monde arabe à l'Institut du monde arabe. Que je vous recommande, mais le problème c'est que ça s'est fini en septembre. Donc,
yes. Non, mais par contre, c'est vrai que la culture arabe est ultra intéressante, mais du point de vue. J'aimerais bien que tu me fasses un sujet dessus à l'occasion, ou alors moi j'essaierai de m'y pencher, mais le côté transmission culturelle, pan, pan-arabique, mais les différents courants, etc. Parce que en fait, c'est quelque chose dont les gens n'ont pas forcément conscience. Ou alors l'évolution des langues aussi. Enfin, les différences linguistiques qu'on peut avoir majeures.
Ah, j'avais plus J'avais une idée de traiter genre l'histoire du rail.
Ouais, comme ça, mais oui, le rail.
Mais pas tout de suite.
Rien à voir avec la SNCF, mais. Mais on va être obligé de faire un jingle avec Faudel.
Tellement je t'aime.
Le petit prince du rail.
Je pense à toi. Hein.
Mais non, en vrai, c'est super intéressant parce qu'en plus, c'est une culture et un art qui a mis du temps à se renouveler parce qu'il y a eu. Mais même. Enfin, toutes les différentes nations et peuples, etc., ont des cycles de consommation de la culture interne et externe différents. Et ils sont différents en Orient, en Occident. Même en France, il y a des moments où on était très franco-français, d'autres moments où on s'est ouvert au monde et consommé beaucoup de musique américaine.
Bah, j'en parlais déjà avec mon sujet sur Camille Saint-Saëns, où lui militait pour garder justement ce côté, l'identité française, alors qu'il y avait d'autres courants qui venaient.
Ouais, et c'est rigolo. Enfin, même en France, par exemple, on ne consomme pas beaucoup de contenu canadien, québécois.
Alors, ah si, moi j'écoute Léonie, que j'adore beaucoup.
Oui, mais voilà. Je veux dire, c'est une particularité, mais on a un peu en musique, mais en film, par exemple, pas tant que ça. Ou belge,
c'est vrai.
Des contenus belges. Bon, on a les humoristes qui arrivent sur France Inter, mais...
Angèle.
Voilà, mais typiquement, ça fait partie des un peu des... pas des précurseurs, parce que c'est pas les premiers, mais voilà, c'est
ça reste des exceptions,
voilà,
en tout cas.
Exactement, des exceptions qu'on peut citer. Mmh. Et c'est vrai que c'est rigolo de se demander pourquoi on ne consomme pas forcément de contenu de ces endroits-là. Et avec le point de vue arabe, ça peut être assez intéressant parce qu'on a maintenant plus de vision. Donc j'ai hâte, mais trop cool en tout cas. Merci beaucoup.
Ouais,
trop
chouette. Merci à vous.
Vraiment, vraiment.
Je me suis éclaté à le faire. Et,
ça s'est senti en fait, justement, du coup. Ouais, clairement.
Bah, j'ai adoré et je peux t'assurer, je te confirmerai ça, mais que j'aurai très certainement.
Oh, j'en doute pas, j'ai eu une petite pensée quand même.
Mais on fait d'ailleurs un coucou. À toi.
Bah, merci, j'espère qu'elle nous écoute. Voilà. Mais normalement, c'est le cas, mais bon, on verra. Du coup, bisous maman, et au passage. et ça va marquer la fin de cet épisode. Oh. C'est une très belle façon de finir. Mais donc, merci beaucoup pour vos sujets. J'ai adoré, c'était très chouette d'enregistrer cet épisode ensemble. On espère que vous, auditeurs, auditrices, vous avez apprécié.
C'est ce machin.
Comme d'habitude, on ne le dit pas assez, mais envoyez-nous des messages, des bisous, des trucs sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres. Et à plus.
C'est vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.